תעזבי.
לא, יעטו, לא תורפיבה, יעטו. לא תורפיבה.
בונז'ור טול מונד. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger dans vos entretiens importants.
Je rappelle à tout le monde de fermer son micro et de l'allumer que en cas de questions. Merci beaucoup.
Toda. Zaya, welcome vrati. Shabbat.
Shabbat Tov, Mborach à tout le monde. Nous continuons donc dans Rota Tshuva. Rota Tshuva, 8e chapitre, paragraphe Vav. Nous sommes dans le chapitre dans lequel le Rav Kook discute de la souffrance liée à la teshuvah. D'ailleurs, faire teshuvah n'est pas une chose facile, ça entraîne une transformation intérieure. Et cette transformation intérieure est analysée par le Rav Kook. Ici, il s'agit donc de la teshuvah des tzadikim. Je lis ici au paragraphe Vav, « Keshe tzadikim osim teshuvah ». Lorsque les tzadikim, les justes, font teshuvah, alors, ça veut dire quoi qu'ils font teshuvah? Alors, ça peut vouloir dire qu'ils font teshuvah pour des péchés qu'ils ont, mais enfin, les péchés des tzadikim sont, de manière générale, puisque ce sont des tzadikim infimes par rapport aux péchés des méchants, des réchaïm, mais il y a également une teshuvah intérieure qui se fait au niveau de l'être, c'est-à-dire, par exemple, le tzadik sent qu'il n'a pas assez d'adhésion à Dieu, il n'a pas assez d'amour ou pas assez de crainte. Ce n'est pas forcément donc des péchés au niveau formel. En tout cas, ils font teshuvah. Les tzadikim font teshuvah. Alors, ce que le Rav Kook va aussi innover, c'est que la teshuvah du tzadik est utile non pas seulement pour lui, mais elle est également utile pour les autres. Ah bon, comment? Keshe tzadikim osim teshuvah, lorsque les tzadikim font teshuvah, mirim hem et or hakdusha bechol darchei harpilim vapgamim shemotzim benafsham. Ils illuminent d'une lumière de sainteté tous les brouillards et les défauts qu'ils trouvent dans leur être. C'est-à-dire, ils ont des brouillards. Les tzadikim ont des brouillards dans leur conscience. Ils ont le sentiment d'un manque. Et quand ils font teshuvah, ils illuminent ces brouillards. Ça veut dire quoi qu'ils illuminent les brouillards? Ça veut dire qu'ils arrivent à découvrir comment transformer l'obscurité en lumière. Ce n'est pas simplement chasser l'obscurité, c'est par exemple chez les réchaïm ont des graves péchés. Alors évidemment, les graves péchés, il faut les faire disparaître. Tandis que chez les tzadikim, les manques qu'ils ont peuvent être transformés en, disons, en quelque chose de gracieux. C'est comme par exemple si vous avez, un enfant qui fait des grimaces, ben, les grimaces peuvent être considérées également comme des sourires. Alors, c'est un peu ça. Donc, ils mettent de la lumière dans les brouillards qui les troublent. Et là, le chidouche, c'est « Veha etzot shehem mechachim le'atzmam ». Et les conseils, les moyens qu'ils innovent en eux, « La alot mitoch anifila vayehu shebilvavam »« Le toch haor abayir shelagdusha vayosher ha'elyon » Comment sortir? Comment remonter de la chute et du désespoir qu'ils ressentent dans leur cœur pour entrer dans la lumière claire de la sainteté et de la droiture suprême? Hem atzmam nasot orot gdolim le'ahir la'olam, se transforme en grande lumière qui illumine le monde. Alors, pour ça, je voudrais vous donner un exemple tiré d'un autre domaine, celui de l'étude. On raconte à propos d'un des tzadikim qui a passé toute la nuit à étudier parce qu'il devait élucider un problème de halakha. Alors c'était très compliqué, il a parcouru des livres et des livres, il a beaucoup réfléchi, il a amené des arguments pour, des arguments contre. À la fin de la nuit, il arrive enfin à une conclusion qu'il met par écrit. Tout content, il s'en va à la synagogue. À la synagogue, il entend un juif poser la question de halakha, ce qu'il avait étudié pendant toute la nuit, la poser à son prochain. Il lui dit « Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la halakha ?» Et l'autre lui répond immédiatement la conclusion qui avait mis une nuit entière à ce tzaddik à découvrir. Alors, bon, le tzaddik en question est très embêté. Il se dit, mais enfin, j'ai travaillé toute une nuit et ici, c'est un simple juif qui a réussi tout de suite à trouver la réponse. Et alors du ciel, on lui a répondu, c'est grâce à toi que c'est arrivé au monde. C'est-à-dire, tu as ouvert le canal de la révélation, et maintenant c'est devenu une évidence pour tout le monde. Alors c'est un peu la même chose pour la teshuva du tzaddik. Il y a des innovations de teshuva chez certains tzaddikim qui après vont servir au monde entier. Comme par exemple, on voit dans le texte que vous n'avez pas devant l'écran, mais que je vais vous lire du texte, puisque sur l'écran, c'est aussi possible aussi de l'écran. Donc je reprends Ha'etzot, les recommandations, Shehem Mechachim Le'atzmam, qu'ils innovent pour eux-mêmes, afin de remonter de la chute et du désespoir qu'il y a dans leur cœur pour entrer dans la lumière claire de la sainteté et de la droiture supérieure. Hem Atzmam, ces conseils, donc ces cheminements, deviennent des grandes lumières qui illuminent le monde. Je pense ici qu'entre autres, le Rav Kook a dû penser à Rabbi Nachman de Breslav, qui ressentait souvent une chute intérieure et qui inventait, si vous voulez, des moyens de sortir de l'obscurité vers la lumière. Et par la suite, ce sont devenus les Likutei Etzot. Ce sont devenus les recueils de recommandations de Rabbi Nachman de Breslav, qui sont devenus des lumières pour le monde entier. Vechol amargish be'atzmo, noham ateshuva. Et tout celui qui ressent en lui-même la profondeur de la consolation que donne la teshuva. Vit marmerut amarshaval et dikun pegamav. Et l'amertume qu'on le ressent dans sa pensée parce qu'il faut réparer ses défauts. Ben otan shetikunam kva ole biado, que ce soit les défauts qu'on arrive déjà à réparer. Ben otam shetikunam eno ole adain biado. Et même s'il s'agit également des défauts que l'on n'a pas encore réussi à surmonter, veu metzape aleam lirachamim, il espère pour eux la miséricorde. Yichlol et atzmo beze bichlal atzadikim. Il faut simplement qu'il s'inclue dans le cadre des tzadikim, shemi marchavot a teshuva shelahem haolam kulo mitchadesh beorchadash, dont les pensées font rénover le monde d'une nouvelle lumière. Alors, on peut comprendre cette dernière phrase du Rav Kook de deux manières. Soit ça veut dire que celui qui fait teshuva doit compter sur les tzadikim qui ont déjà fait teshuva pour eux, mais je pense qu'il y a ici autre chose. Même quelqu'un qui n'est pas un grand tzadik, quand il ressent une certaine souffrance de la teshuva, il peut se dire qu'il est en train d'inventer un remède de teshuva et que ce remède va servir aux autres par la suite. Que ce soit un remède qui a déjà réussi ou un remède qui n'a pas encore réussi. Mais le fait même de souffrir des insuffisances qu'on a en soi, c'est déjà creuser une route, c'est déjà former un chemin qui va permettre aux autres de faire teshuva. Indépendamment de cela, il y a ici deux questions sur le chat. Je ne vais quand même pas les laisser tomber. Qu'est-ce qu'un tzaddik, tout d'abord? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. C'est ça la définition du tzaddik.
Rien à voir avec la Torah.
Qui fait le bien.
Avec les mitzvot.
Une seconde. Je crois avoir donné une définition assez claire. Le tzaddik est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Maintenant, ce qui reste à définir, c'est quoi le bien et le mal? Alors, le bien et le mal, ça se définit en fonction de l'état de conscience de chacun. Si quelqu'un sait l'importance des mitzvot, donc pour lui, le bien et le mal sont définis entre autres par les mitzvot. Mais si on n'en est pas là et qu'on est simplement au niveau de ce qu'on appelle la morale naturelle, eh bien, les valeurs de la morale seront pour lui le bien et le mal. Si on est plus que ça et qu'on est ce qu'on appelle dans la midat chassidut, c'est-à-dire au niveau de faire plus que ce que la Torah nous demande, eh bien, ce plus, ce sera ça le bien et définira le mal. C'est-à-dire que chacun est défini par rapport à l'échelle de valeur dont il est conscient. Est-ce bien clair, cher ami? Très bien. Alors, maintenant, une autre... Oui?
Non, je dis Toda.
Je vous en prie. Pourquoi le mot brouillard? Est-ce juste une métaphore? Eh bien, non. Non, c'est une métaphore, effectivement. C'est-à-dire, le brouillard, c'est-à-dire ce qui trouble la conscience. Le fait que je n'arrive pas à voir les choses de la manière la plus évidente, la plus limpide. Une seconde, il y a eu ici, l'électricité a sauté une petite seconde. Donc voilà, très belle définition. Merci. Je ne sais pas si c'est la définition du tzaddik ou la définition du brouillard, mais enfin peu importe, pour l'instant. Donc nous en sommes à Zayin. Ha'olam, alors on en est donc dans les souffrances de celui qui fait teshuva. Alors on a vu jusqu'à présent les souffrances des tzadikim qui innovent des moyens de faire teshuva. Ha'olam kulo malehu harmonia. Le monde entier. Là nous allons parler donc de la souffrance générale que ressent tout le monde. Ha'olam kulo malehu harmonia. Le monde entier est rempli d'harmonie. Ah bon? C'est bizarre ça. Vous êtes sûr que le monde est harmonieux? C'est pas évident, mais au niveau de l'ensemble de tous les êtres, le cosmos dans sa grandeur, dans son niveau le plus général, est effectivement harmonieux. La disharmonie est ressentie au niveau du détail, des dérivés. Mais le grand principe du Rav Kook, c'est que malgré toutes les disharmonies que nous trouvons dans la création, il y a une grande harmonie fondamentale. Ha'atama ameachedet mefaleshet bechol chadrei ha'metziut vechagveha. L'harmonie unifiante poursuit son chemin dans tous les domaines de la réalité et également ses interstices. Amusar apnimi utviota vachazakot. La morale, l'état de conscience intérieure et ses exigences fortes, inam nimshachim uvaim, ont pour origine mehet kolam ameuchat shel kol chelkei avaya, de l'écho de la voix unifiée de toutes les parties de l'être, shekulam chodrim zebaze, qui tous pénètrent l'un dans l'autre, vanefesh kula himelea bechulam ou meuchedet bechulam. Et l'être tout entier est rempli de tout cela et est unifié avec tout cela. Bon, alors cette phrase est un peu difficile à comprendre, ça veut dire une chose toute simple en fait. C'est que l'exigence morale que je ressens en moi-même, eh bien cette exigence morale a une origine. L'origine de cette exigence, c'est l'harmonie de la création. C'est-à-dire je désire profondément, au niveau de ma neshama, être en harmonie avec l'ensemble des êtres. Et quand je suis en défaut, il y a une distorsion, il y a une déconnexion par rapport à l'harmonie cosmique. Kol ketzitza musarit berayon uvemaase. Tout détachement moral, que ce soit en pensée ou en acte. Bitruna uvemezeg. Dans un caractère ou dans un équilibre intérieur, gorem et chatichot rabot, cause des coupures nombreuses, shemiviot yisurim rabim pnimim lechol marche aneshama, qui amène de grandes souffrances intérieures dans tous les domaines de la neshama, sheyesodam sheyisurim ruach elle, et le fondement de ces douleur spirituelle, ou à koach hamaraïd shel siluk orachaim, vient de la puissance ébranlante consécutive à la disparition de la lumière vitale chez la sidoura klali shel avayakula, de l'accord général avec l'ensemble du cosmos, mitsinore achaim shel neshama achotet, des canaux de vie de la neshama pécheresse. Donc, il y a ici ce que dit le Rav Kook, c'est comme s'il y avait un système sanguin de vitalité, d'énergie cosmique qui traverse l'ensemble du cosmos et dont je fais partie. À partir du moment où je fais un péché ou même simplement que j'ai un désaccord avec l'harmonie cosmique, cela crée en moi ce qu'on appelle des coupures. C'est-à-dire, je sens une disparition, une défection des énergies vitales cosmiques qui me remplissaient. Et c'est ça l'origine de la souffrance de celui qui fait Teshuva. Vechol macha neshama yoter teora, plus l'âme est pure, hi margeshet yoter et aradat mach ovea, elle ressent encore plus le tremblement que causent ses souffrances, jusqu'à ce qu'elle calme sa douleur, bazerem shel chaye a teshuva, par le courant de la vie de teshuva, anovat umakor haelyon, qui découle de la source suprême, shehi me'aha et kol akraim kulam, qui a pour vertu de réparer toutes les déchirures. Umazelet tal chaim, et fait couler une rosée de vie, haolchim le mesharim mikol sderot ha'avaya, qui viennent directement de tous les domaines de l'être, echad be'echad yigashu, pour se réunifier, ad chelke aneshama shava litriata eliona berachamim rabim uchedvat olamim, jusqu'aux différentes parties de la neshama qui revient à sa résurrection suprême par une grande miséricorde et une joie éternelle, et un délice éternel. Donc, ce que dit ici le Rav, c'est la douleur n'est pas la douleur de la teshuva, c'est la douleur qui m'amène à faire teshuva. Nous avons ici deux sortes de douleurs. La douleur de celui qui fait teshuva, on l'avait vu dans le premier chapitre, dans le premier paragraphe du chapitre. Il y a la douleur qui vient du sentiment de désaccord entre moi et l'harmonie cosmique qui me fait faire teshuva et me ramène à l'unité grâce à ce que le Rav appelle ici une rosée vitale qui est une rosée de résurrection. Alors là, nous avons une petite question. Non. D'abord, il y a une question. Quelle différence faites-vous entre harmonie et perfection? Ah, c'est pas du tout la même chose. L'harmonie, c'est l'harmonie, et la perfection, bah, c'est la perfection. J'entends par là que la perfection, c'est l'accord entre moi-même et ce que je dois être. C'est entre ce que je dois être et moi-même. Par exemple, on me demande d'être d'un certain niveau et j'y arrive. Ça s'appelle la perfection. Par exemple, on me demande de faire de la gymnastique pour être en bonne santé. Je fais de la gymnastique, je suis en bonne santé. Je suis donc arrivé à une perfection physique. Je peux arriver à une perfection morale. Mais est-ce que cette perfection à laquelle j'arrive est en harmonie avec l'ensemble des êtres? Pas forcément. Je peux, par exemple, le cas de Noar, qui est un tzaddik absolument parfait. Il est arrivé à la perfection du tzaddik, mais il est en désaccord avec sa génération. Il n'est pas capable de lui faire teshuva. Il ne peut pas sauver sa génération. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre la perfection qui est individuelle et l'harmonie qui est collective.
Donc, je peux être en harmonie avec le monde sans forcément faire les mitzvot, et en même temps, je peux faire toutes les mitzvot du monde et être en désharmonie.
Disons, je peux être en harmonie avec le monde sans faire les mitzvot si je ne suis pas conscient de l'engagement que j'ai envers les mitzvot. C'est par exemple si j'ignore les mitzvot. Mais si je suis, par exemple, engagé par rapport aux mitzvot, je sais que les mitzvot, ça existe et qu'elles me concernent. Alors, ne pas faire les mitzvot à partir de ce moment-là, c'est également une imperfection et donc également une désharmonie. David, tu veux dire quelque chose?
Moi, j'ai une question un peu bizarre. Je trouve que le Rav Kook amène quelque chose de très poétique dans la teshuva. Est-ce que ça veut dire que la teshuva, ce n'est pas du tout quelque chose de sirli, c'est quelque chose de très nafshi?
Poétique, psychique et intellectuel. Ce sont trois dimensions différentes, n'est-ce pas? Ah bon. Alors, tout d'abord, le Rav Kook est poétique. Tout d'abord. Il a une approche poétique du monde. Maintenant, est-ce que le poétique est quelque chose de sentimental, de psychologique? Non. c'est parfois une conscience élevée de ce qui capte l'ensemble des forces humaines, aussi bien l'intelligence que le sentiment. C'est-à-dire parfois le poète est celui qui voit mieux que les autres. Tandis que si on parle de sentiment, c'est quelque chose de purement personnel, c'est à la limite sujet à pitié. Celui-ci est insensible. Non, ce n'est pas du tout de la sensibilité. C'est quelque chose, justement, c'est ce qu'on appelle une sorte de Ruach HaKodesh, une vision collective des choses. Et donc, ça implique également le Sikhli et le Rikshi, comme tu l'as si bien dit. Voilà. Eh bien, nous allons donc continuer au paragraphe 7. כשהצער הרוחני ממעמד החיים הרוחניים של עצמו שעוקב התשובה ושל העולם כולו גדול עד מאוד. Lorsque la souffrance spirituelle qui est ressentie à cause de la condition de la vie spirituelle de soi-même, qui est la souffrance de la teshuvah et du monde entier, est très grande, c'est-à-dire parfois ça fait très mal. Et des fois, parfois ça fait mal, parfois ça fait très mal. Qu'est-ce qui me fait très mal? Ma condition spirituelle. Je suis très déçu de ce que je suis. Ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance de la teshuvah. Ou bien, et parfois, il s'agit de la souffrance que l'on ressent à cause de la condition spirituelle du monde entier, pas seulement la mienne. Le monde entier est en situation de déficience. Et si je le ressens très fortement, ce qui entraîne « at kede stimatam shel hamikorot »« asher la rayonot, la dibourim, la tfila, la tzeaka, la rigesha, la shira » au point que se ferme, se bouche toutes les sources des pensées, des paroles, de la prière, du cri, du sentiment et de la poésie. C'est-à-dire quand tout cela est brusquement éteint, vous pouvez imaginer une sorte de panne électrique, de secteur, qui fait que tout est entièrement... réduit. Alors que comment faire? C'est-à-dire d'habitude, on peut se servir de la prière, ou de la pensée, ou de la parole, de la poésie, du cri. Mais tout cela est devenu impossible. C'est-à-dire ça fait tellement mal que je suis incapable de me servir de mes armes habituelles. Alors comment on fait? Eh bien, il faut faire un saut. Il faut sauter. Sauter vers où? Vers le silence, évidemment. Quand on ne peut rien exprimer, c'est donc que l'on est amené à rencontrer les trésors du silence. Mitromemim bidliga, alors on s'élève en un saut, l'arsof orot meleechaim, pour découvrir des lumières pleines de vie, mimekor adumia, de la source du silence. Veaya hasharav leagam, c'est alors que la sécheresse deviendra un lac, vetsimaon limaboemaim, et la soif devient une source de vie, une source d'eau. Alors, c'est quoi cette histoire? Là, pour bien comprendre de quoi il s'agit, le Rav Kook fait référence évidemment à des idées qui ont été développées par ses prédécesseurs, entre autres par Rabbi Nachman de Breslav, mais pas seulement. Vous connaissez ce texte de la Gemara dans le traité de Menachot, à propos de Moshe qui monte au ciel et qui voit le bon Dieu qui attache des couronnes aux lettres. Il y a donc, dans le Sefer Torah, vous avez des petites couronnes comme ça sur certaines lettres. Et alors, il voit que le bon Dieu attache des couronnes aux lettres. Une remarque, à quoi ça sert les lettres? Les lettres, ça permet de faire des mots. Et les mots, ça permet de parler, donc de s'exprimer. Mais s'il faut rajouter des couronnes aux lettres, ça veut dire qu'il ne suffit parfois, parler ne suffit pas. Il faut autre chose, il faut la couronne de la lettre. Or la couronne, elle est au-dessus, elle ne se prononce pas. Si vous avez une lettre de la Torah avec des petites couronnes, ces couronnes, on ne les prononce pas. Elles sont simplement là, mais on ne les prononce pas. Alors elles servent à quoi? Et alors le Midrash nous raconte que Moshe demande à Dieu, mais à quoi ça sert? Il dit, c'est pas ton affaire, te mêle pas de ça. Il y a dans quelques milliers d'années, quelqu'un du nom de Akiva ben Yosef, qui lui expliquera qu'est-ce que c'est que ces couronnes. Ah bon? Alors Moshe s'intéresse beaucoup à Rabbi Akiva et il dit, est-ce que je peux aller voir ce qu'il fait? Il dit, c'est pas difficile, tu prends la deuxième à gauche, première à droite, et tu rentres dans la maison d'études, dans le Beit HaMidrash de Rabbi Akiva. Moshe y va, se met dans la dernière rangée, c'est-à-dire la dernière rangée, c'est celle des cancres, et il ne comprend pas ce que dit Moshe. Le cours est tellement profond que Moshe ne comprend pas. Alors Moshe est vachement désolé, et alors il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, je ne comprends rien. Et finalement, un élève demande à Rabbi Akiva, « Maître, d'où tiens-tu ça ?» Et Rabbi Akiva répond, « C'est une halakha que je tiens de Moshe depuis le Sinaï. » Et alors, Moshe est réconcilié. Ah bon, moi, si j'avais été à sa place, moi, j'aurais dit, « Mais pas du tout, moi, je n'ai pas dit ça. » Mais pas du tout. Moshe, en fait, savait très bien qu'il y aurait un développement de l'étude et que ça arriverait à des certaines finesses que peut-être Moshe ne peut pas percevoir. Ce qui inquiète Moshe, c'est de savoir, est-ce que les enseignements de Rabbi Akiva sont un prolongement de son enseignement à lui, Moshe, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau, donc une trahison? Quand il entend que Rabbi Akiva se réfère à la loi de Moshe depuis le Sinaï, il comprend qu'en fait c'est un développement, que lui est la racine et Rabbi Akiva est la branche. Et alors, Moshe dit à Dieu, mais j'ai vu sa Torah, est-ce que tu peux me montrer sa récompense? Et alors, Dieu lui montre Rabbi Akiva lacéré avec des peignes de fer par les Romains. Moshe dit, Zo Torah ve Zo Sechara, quoi, c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense? Question. Et Dieu lui répond, stop, tais-toi. Car Allah be Machashava lefanai, c'est la pensée qui est montée devant moi. Rien compris. Ça veut dire quoi? Si Dieu lui dit, je ne veux pas te répondre, qu'il lui dise, tais-toi. Et alors l'entretien est fini. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter, c'est la pensée qui est venue devant moi? Et si répondre, c'est la pensée qui est venue devant moi, est une réponse, alors pourquoi lui dire, tais-toi? Alors, ça veut dire en fait qu'il y a des choses qui, pour être comprises, ont besoin de paroles. Il y a des choses qui, pour être comprises, ont besoin de silence. Or, ce que dit Dieu à Moshe, si tu veux comprendre ce qui se passe chez Akiva ben Yosef, tu dois d'abord te taire. Une fois que tu vas te taire, tu arriveras dans un univers où il n'y a pas de lettres. Il y a là-bas les couronnes des lettres. C'est là que tu commenceras à comprendre quelque chose qui dépasse la capacité d'expression. Ça veut dire que tu ne comprendras pas. Mais ça veut dire que tu n'auras pas de mots pour l'exprimer. Eh bien, c'est ça qu'il dit à Moshe. Tu es arrivé à une question qui va te faire taire. Non pas pour te clouer le bec, mais au contraire, pour t'ouvrir à une pensée suprême. C'est exactement ce que dit ici le Rav Kook à propos de la teshuvah, de celui qui ressent la douleur, une douleur terrible de ses propres manques ou bien du manque du monde, et à tel point que ça empêche la prière ou l'étude et donc la possibilité d'exprimer quelque chose. Alors dit le Rav Kook, c'est une occasion. C'est une occasion d'en arriver à plus haut. C'est quoi le plus haut? Eh bien, les trésors du silence. Comme disait Simon & Garfunkel, The Sounds of Silence. Donc je reprends ici le paragraphe. Lorsque la souffrance spirituelle que l'on ressent à cause de la condition spirituelle chez l'atmo de soi-même, qui est la souffrance de la teshuva, veshela olam kulo, ou bien de l'état spirituel du monde, gadol admeod est très forte, at kedestimatam shel mekorot, asher la rayonot, les diburim, les tfilah, les tzaka, à tel point que sont bouchés les sources des pensées, des paroles, de la prière et du cri, les argasha veshira, ou des sentiments, ou de la poésie, mitromemim bidliga, c'est alors qu'on s'élève par un saut, l'arsof orot, pour découvrir des lumières, mele echaim, pleines de vie, mimekor adumia, aux sources du silence. Et là, il nous amène un verset qui le dit, que vaya acharav lagam simon laboemaim, la sécheresse devient elle-même un lac et la soif devient une source d'eau. comme ça qu'on peut le lire. Nous passons donc à Tet. Il y a quelque chose qui concerne un peu notre vie actuelle, ce qu'on appelle le confinement, c'est-à-dire l'isolement. Keshia Hoshev Mitboded. Lorsque celui qui réfléchit s'isole. Parce que, vous savez, bon, l'homme est un être social. C'est ça, une chose bien connue. On vit en société, on ne peut pas vivre seul. Mais il y a des moments où on doit se retrouver soi-même. Donc, Keshia Hoshev Mitboded, lorsque le penseur s'isole, et qu'alors se révèle dans son être la puissance spirituelle intérieure qu'il possède, c'est alors que l'on ressent toutes les déficiences de sa neshama, qui ont pour origine des actions et des défauts qui ne sont pas louables. Mitzter ou az betzar pnimi amok, c'est alors qu'il a une douleur intérieure profonde. Vechoter berucho ech letaken et amiuvat, et qu'il cherche dans son esprit à réparer ce qui est tordu. Keshatzar pnimi mitgale bechol toko, lorsque la douleur intérieure est dans toute sa puissance. Lorsque l'état extérieur est ébranlé, comme par exemple lorsqu'on est pris en défaut et dans le malheur. C'est alors que le sentiment intérieur n'est pas très fort. Mais là aussi, on peut arriver à son sommet, qui gamme teshuva chez Deisuruna teshuva, car même une teshuva par souffrance est une teshuva. Alors, de quoi parle le Rav Kook ici? Il parle ici dans les deux phrases qu'il a écrites ici. Il y a en fait deux descriptions tout à fait différentes. Il y a on pose beaucoup trop de questions en fait. C'est très bien, ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque. Alors, on peut, à la des questions, faire des remarques. C'est génial. Et alors, il y aura quelqu'un qui dira, mais pourquoi tant de remarques? Et là, ça sera une question. Tout est possible. En tout cas, ce que dit ici le Rav Kook, il dit ici deux choses importantes. Il y a une teshuva qui vient de l'intériorité, il y a une teshuva qui vient de l'extériorité. Je peux faire teshuva parce que, en m'isolant avec moi-même, je ressens brusquement les conséquences de tout le mal que j'ai fait. Alors, ça m'ébranle, ça m'amène à faire une teshuva intérieure. Mais il y a parfois la souffrance du fait d'être pris la main dans le sac. C'est-à-dire, il y a de l'extérieur viennent les conséquences de mes péchés. Alors, c'est une autre souffrance, c'est la souffrance de la honte parfois, la souffrance causée par mes péchés. Et cette souffrance n'est pas une souffrance intérieure, ça vient de l'extérieur. Mais ça aussi, dit le Rav Kook, c'est aussi une teshuva. Il y a également la souffrance qui vient de l'extérieur. Par exemple, le Shla, le Rabbi Yeshayahu Alevi Horowitz, il y a 500 ans, écrit que la souffrance que l'on a en ayant honte de quelque chose est quelque chose de souhaitable. Pourquoi? Parce que ça n'entame pas la santé ni la capacité intellectuelle. Et donc, ça permet de continuer à étudier la Torah et à faire la tefila. Donc, à la limite, c'est préférable à une maladie. À une maladie du corps. C'est quand on est malade dans son corps, eh bien alors on ne peut même pas prier, on ne peut pas faire la prière, on ne peut pas étudier. Tandis que quand on a simplement honte d'une gaffe qu'on a fait en public, eh bien à la limite c'est préférable parce que ça préserve l'intégrité de la personne. Ah, Yud. Yud. Yud, c'est court, hein, vous avez vu, c'est une seule phrase. Mais cette phrase est intéressante, elle nous amène à méditer pour beaucoup de choses. Atzar apnimi shel teshuva, la souffrance intérieure de la teshuva, ou chomer gadol imshorei ayagon, peut servir de matière pour les poètes de la détresse. les Ha'ir et Kinoram, d'éveiller leurs violons. Vela Metzairim Tragiim est pour les grands tragédiens, les Galot Bo et Kishonam, de manifester leur capacité, leur don. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, qu'il devrait y avoir une littérature de la Teshuvah, une littérature sérieuse, pas n'importe quoi, pas quelque chose de mièvre et de j'ai péché, maintenant je fais Teshuvah, comme c'est bien. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a, chez les grands tragédiens et les grands poètes et les grands artistes, il y a une matière à étudier qui peut se transformer en œuvre artistique. Ça me rappelle un peu une phrase que disait Rabbi Yedaya Badarchi. Rabbi Yedaya Badarchi était un chacham et un poète au Moyen-Âge de la ville de Badarch. Badarch, c'est Béziers d'aujourd'hui. Oui, c'est la ville de Béziers. Oui, équipe de football, industrie et tout le reste. Eh bien, Rabbi Yedaya de Béziers disait c'est dans l'amertume du cœur du poète que vient la douceur de son poème. C'est-à-dire, si vous voulez un beau poème, il faut donc que le poète ait souffert. C'est pas sympathique pour les poètes, mais enfin, c'est intéressant pour les lecteurs.
Est-ce que le Rav Kook a souffert?
Sans aucun doute. Le Rav Kook avait une grande souffrance intérieure, évidemment. Il souffrait, mais pas au niveau... il avait, bon, ses malheurs personnels, c'est vrai, mais il était très au-dessus de tout ça. Il avait, il a eu effectivement beaucoup de malheurs au niveau familial, même ce qu'on lui a fait au niveau public. Mais il souffrait beaucoup plus de l'absence de la présence divine dans le monde, de la Shekhina. Il disait lui-même dans un de ses écrits, en manuscrit, est-ce que vous pensez que c'est pour moi une petite souffrance que de ne pas pouvoir prononcer le nom des quatre lettres de Dieu? C'est-à-dire, il aurait voulu être Kohen Gadol et entrer dans le Saint des Saints pour pouvoir prononcer ce nom. Prononcer ce nom n'est pas simplement une curiosité pour le Rav Kook, c'est l'expression de l'harmonie du monde, justement. Et c'est ça qu'il ressentait comme une souffrance. Ou bien, dans un autre texte, il dit « La souffrance véritable, c'est l'absence de prophétie ». D'accord. Donc il souffrait. Mais évidemment, ça s'est transformé chez lui en une production absolument prodigieuse. Ah, nous en sommes à Yud Aleph.
Oui, ça avance. J'ai une question.
Oui, allez-y. Allez-y.
Alors, le Shema Akadosh dit que c'est préférable d'avoir des Issourim par les maladies. D'accord,
c'est plus... Non, pas du tout. C'est le contraire.
Non, parce que on dit tous les jours, on demande à Hachem, kapar, etc., avalo aliede yisurim ve machalot ra'ot. On dit ça constamment dans la prière. Et ce que vous dites là, c'est un peu en contradiction.
Non, simplement, avec ça. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire, que pour le Shla Kadosh, il vaut mieux souffrir de la honte en public que d'avoir une maladie. Parce que la maladie empêche de prier, de faire la prière et d'étudier, tandis que la honte qu'on a en public préserve notre intégrité intellectuelle et morale.
Alors c'est nécessaire de demander à Hachem de ne pas nous tester avec des issourim, etc.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça s'écrit dans le Sidour.
Oui, je sais. On le dit toujours.
Très bien. Donc vous avez raison, mais c'est pas contraire à ce que j'ai dit. C'est exactement la même chose que ce que j'ai dit. C'est très bien. Eh bien, nous allons donc passer à Yud Aleph. Ha'avonot emetzem ha'yagon. Les péchés sont la détresse elle-même. Urshe ha'neshama mitaheret, lorsque la neshama se purifie, hi margeshet et ha'atzmiut shel ha'avonot, c'est là qu'elle ressent l'essence des péchés. Vaz ha'yagon shel ha'teshuva mitgaber aleha. Alors la détresse de la teshuva l'emporte encore plus. C'est-à-dire, nous avons ici deux sortes de détresse. La détresse du péché lui-même et la détresse qui est ressentie à cause des péchés, qui est celle de la teshuva. Uboer bekirba eshatsar shel acharata veabusha veapachad ha'ayom. Et c'est alors que brûle en elle le feu de la douleur, du regret et la honte, la peur et de la grande peur. Uvaze atzmu mizdakechet. C'est ça qui en soi la purifie, vetucha l'acharei avor azam, de sorte qu'elle pourra, après le trouble, la chouvle etana, revenir à sa vigueur, liot omedet bechosna vichoda atzmi, pour retrouver sa vigueur et son honneur essentiel. Bon, c'est tout simple en fait, on dirait que c'est presque bateau hein, ce qui est dit là, c'est que ça veut dire que quand on fait teshuva, il y a un moment dur à passer, mais c'est comme une naissance, vous savez, les femmes parmi nous savent ça, il y a un moment de douleur, mais après il y a une récompense, il y a un petit bébé tout sympathique, et alors on a tout oublié. Eh bien, c'est un peu ce que dit le Rav Kook. La douleur de la teshuvah entraîne également par la suite une vigueur, un retour à la pleine santé spirituelle. Et nous passons à Yud Bet. C'est vrai qu'il faut beaucoup éviter la tristesse. C'est une chose bien connue dans les livres de Moussar, on dit faites attention, pas de tristesse. Mais pas à tel point. Il ne faut pas éviter la tristesse au point de ne pas faire teshuva. Dire je ne veux pas être triste, donc je ne vais pas faire teshuva. Non, non, non. La tristesse que l'on ressent dans la neshama est parfois même souhaitable. Car alors, la tristesse emplit à la manière d'une maladie toutes les extrémités du corps et de l'âme, parce que le péché attriste le cœur. Parce qu'alors la tristesse s'installe dans l'amertume brûlante de la teshuvah. C'est un feu, comment peut-on parler d'un feu de douleur? Ben oui, il y a le feu qui est causé par la douleur, ou la douleur qui est causée par le feu. Shafalpi, Sheshbar, Halakim, Matzvanim, car même si la teshuvah comporte des éléments